Ce matin, nous continuons la série sur l'Église de Christ. C'est le troisième volet ce matin. Et pour quelle raison j'ai décidé de parler de l'Église? J'ai deux raisons. Première raison, parce que nous partons une œuvre. Nous partons justement l'Église. Alors, c'est important de bien connaître, de bien savoir, de bien poser le bon fondement quand on part quelque chose. Et étant donné que c'est un début, j'ai pensé qu'on devait être enseigné, que je devais me renseigner sur comment l'Église doit fonctionner. Première raison, parce que justement, on part une Église, on doit parler d'Église. Deuxième raison, parce que dans l'Apocalypse, ça va très mal. Le Seigneur reprend 5 églises sur 7. Et malgré les actes des apôtres, les fusions du Saint-Esprit, malgré les lettres de Paul, on arrive dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse et Jésus est très sévère envers l'Église. Il reprend 5 églises sur 7. Et je me demande vraiment si le Seigneur reviendrait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait avec l'Église? Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine que probablement que personne, il n'y a pas une Église qui l'inviterait à prêcher. Ou à peu près pas. Parce que son message ne passerait pas. Demain matin, on fait venir le Seigneur Jésus qui on ne sait pas que c'est le Seigneur, mais on l'invite à prêcher. Je ne pense pas que son message passe. Je ne peux pas dire que je vais dans ce sens-là, c'est une bonne observation, mais une chose est très évidente, c'est que dans l'Apocalypse, 5 églises sur 7 sont reprises. Alors moi, quand je vois ça, on a un problème. Alors, je me dois d'aller aux sources et d'aller voir dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, et c'est le but justement. Pourquoi que nous commençons l'Église avec justement une série sur l'Église. Et la bonne nouvelle, c'est que probablement que nous allons parler de l'Église pour les prochains mois. Il n'y a pas d'amen, mais probablement ça va être ça. Alors, ce matin, troisième volet de la série l'Église de Christ. Premier volet, on a parlé de « Je bâtirai mon Église ». L'Église, c'est comme on peut comparer ça à la venue d'un enfant. Il y a une préparation, on pense à ça, on va avoir un enfant, et il y a une préparation qui se fait, premier chapitre des Actes. Après ça, il y a la naissance de l'enfant, un peu comme la naissance de l'Église. Après ça, il y a la vie de l'enfant, la vie de l'Église. Alors, premier volet que nous avons parler, c'est quand Jésus, dans Matthieu 16, a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est un verset, c'est le verset que nous allons prendre pour les prochains mois. C'est un verset, quelque chose, une déclaration fracassante de Jésus, la première fois qu'il parlait de l'Église dans la Bible, dans le Nouveau Testament, première fois qu'il mentionne le nom de l'Église, Matthieu 16, les apôtres n'ont pas compris. Mais il a révélé quelque chose et c'est pas avant le chapitre 2 de Actes des Apôtres qu'on va reparler d'Église. Alors, le premier volet qu'on a parlé, c'est le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». Et je vous ai dit également que quelqu'un qui veut bâtir l'Église à la place du Seigneur, ça ne fonctionne pas, vous compétitionnez Dieu. C'est Dieu qui bâtit son Église. Alors, le premier volet, « Je bâtirai mon Église », la semaine passée, on a vu la naissance de l'Église dans le Acte des Apôtres, chapitre 2. Alors qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit. L'Église, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Le Saint-Esprit sans l'Église, oui. Mais pas l'Église sans le Saint-Esprit, ça va ensemble. Jésus avait dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il avait dit aussi dans les Évangiles, j'enverrai mon Consolateur. Alors, l'Église et le Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit pour le fonctionnement de l'Église. Alors, très important, le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui arrive dans la chambre haute. C'est quelque chose d'extraordinaire. On en a parlé la semaine passée. Et ce matin, nous continuons notre série avec le troisième volet, la vie de l'Église. Alors, le texte que nous allons prendre, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, et en passant, nous allons passer beaucoup de temps dans Actes des Apôtres. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre historique, c'est un livre qui parle de l'Église, c'est encore un livre qui est actuel parce que nous sommes dans le temps des Actes, parce que l'Église est encore ici. C'est un livre de prodiges et de miracles, c'est un livre des dons spirituels, c'est le livre du Saint-Esprit. Alors, le livre des Actes, c'est un livre extraordinaire. Alors, Actes chapitre 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Si je veux résumer mon message de ce matin, c'est quelle devrait être la vie de l'Église. Alors, le présent passage que j'ai lu décrit la mise historique de l'idéal divin dans la première église locale. Ce que le Seigneur voulait qu'il se passe dans l'église locale, au début de l'église locale. Ce que Dieu s'attendait à voir dans une église chrétienne. C'était un temps extraordinaire. Dans ce temps-là, l'Église faisait preuve d'une pureté de consécration envers Dieu. Quelque chose d'inégalé dans les générations ultérieures. Je pourrais dire que c'était une assemblée remarquable. Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 42. Vous savez, quand on commence quelque chose de nouveau, il y a toujours une petite excitation, il y a toujours quelque chose. On commence un nouveau travail, on commence un nouveau cours, on commence à cuisiner, on va prendre un repas puis on va essayer de le faire le mieux possible. Et c'est ça, on dirait, que je vois dans l'Acte des Apôtres. L'Église était quelque chose, pas parfait, mais quelque chose de vraiment de pur, de quelque chose que le Seigneur, l'Église que le Seigneur s'attendait. Et dans ce texte-là, il y a trois choses qui ressortent. L'Église, si je veux parler de l'Église, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, on voit des œuvres spirituelles qui amènent à développer un caractère spirituel puis qui va avoir une influence spirituelle. Je vais m'expliquer. Je veux parler des œuvres spirituelles. Quatre caractéristiques qu'on voit dans ce passage-là. Le passage qu'on peut voir une véritable Église, une vie dédiée aux œuvres spirituelles. Pourtant, cette Église-là n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Il n'avait pas le côté technologie, il n'y avait pas le côté Internet, il n'y avait pas le côté stratégie marketing, mais c'était une Église extraordinaire. C'était une église quand même qui avait 3000 personnes, parce que la Bible dit qu'il y a 3000 personnes qui ont été sauvées, qui ont été baptisées. Alors, j'aimerais parler de quatre caractéristiques dans la vie de l'Église. Mais avant de parler des quatre caractéristiques, je veux prendre un mot dans ce verset-là. Il persévérait. 3000 personnes nées de nouveau, baptisées, qui persévèrent en dépit de quoi? En dépit du ridicule, en dépit de la persécution, qui demeurent fidèles, qui marchent dans le Seigneur. Ça, c'est la marque d'une vraie conversion. Quand tu persévères, c'est parce que tu n'abandonnes pas. C'est dur aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est encore plus dur dans ce temps-là. Jean, chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le vrai serment demeure attaché au cep, dit la Bible. Ces gens-là qui étaient, ces 3000 personnes-là, ce n'étaient pas des faux croyants. Parce que les faux croyants auraient parti l'Église. 1 Jean, chapitre 2, verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Alors, il semble évident que les premiers chrétiens d'Église étaient sauvés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puis je dirais même plus que ça, il y a certaines églises modernes qui tentent même de créer des endroits où les non-chrétiens vont être à l'aise. Est-ce vraiment le but d'une congrégation qui est en principe consacrée à la sainteté et à la justice de Dieu? Dans l'Ancien Testament, quand les gens qui ont sorti de l'Égypte, les non-israélites, ils ont accepté de suivre les commandements et les ordonnances de Dieu. Les gens qui, si on les appelait les gens qui craignaient Dieu, les gens qui étaient avec les Juifs, mais qui étaient non-Juifs, non-Israélites. Alors, ça ne veut pas dire que les non-croyants ne sont pas les bienvenus. Les non-croyants peuvent venir entendre le message de l'Évangile, ils peuvent prier avec nous, chanter des louanges avec nous, ils peuvent être témoins de l'amour et de la consécration de l'Assemblée envers Dieu. Mais à un moment donné, il faut que ça les amène à prendre une décision. Seuls les croyants peuvent être membres du corps de Christ et œuvrer dans l'Église. Il y a quelqu'un qui me disait hier, « Ben voyons donc, le Seigneur ne fait pas de différence, le Seigneur, on a le même Dieu, on prie le même Dieu. » Paul met en garde les Corinthiens, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mieux que cela, le Seigneur fait des reproches à l'Église de Pergame dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 14, parce qu'elle s'est laissée infiltrer par des incroyants et a été influencée par Satan. Et c'est des reproches très sévères qu'il a fait à l'Église de Pergame. Par contre, Paul va louanger l'Église de Thessalonique. Pourquoi? Parce que c'est des gens sauvés, étant en Dieu le Père, en Jésus-Christ, possédant des vertus chrétiennes. Alors, ne pas exclure les incroyants de la communion d'Église est une grave erreur. Je vais le répéter, ne pas exclure les incroyants de la communion d'Église est une grave erreur, et je m'explique. Ceux qui servent Christ peuvent-ils travailler avec ceux qui servent Satan? Concevoir les œuvres de l'Église de manière à plaire aux inconvertis ou leur permettre de s'impliquer dans l'Église vont leur donner un faux sentiment de sécurité. Ils vont être à l'aise. Un sentiment de sécurité et de salut, ce qui risque de les amener justement vers une tragédie éternelle, parce qu'ils vont penser qu'ils sont sauvés. Puis ils vont marcher selon leurs idéaux. On ne doit rien au monde, seulement leur annoncer la bonne nouvelle. Souvent, les divisions dans les églises viennent des gens qui sont non sauvés. Nous sommes une assemblée d'adorateurs sauvés, recherchant la sainteté et engagés dans un service spirituel. Dans Actes chapitre 5, c'est un passage qui est tellement bon. Les incroyants craignaient de s'approcher de l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on y traitait le péché très sévèrement. Puis c'est la même chose aujourd'hui. On voit les gens parler d'église, ils n'ont pas le droit de faire ci, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit de... Alors, les inconvertis ne veulent pas rentrer dans l'Église. Pourquoi? Il y a des gens qui vont rentrer, mais ils vont être saisis parce qu'il y a quelque chose, il y a une sainteté, puis après ça, ils vont se convertir. Mais la personne qui ne veut pas se convertir, qui n'est pas prêt à se convertir, qui veut garder son péché, va regarder l'Église et ne rentrera pas dans l'Église. C'était la même chose dans cette première Église. Alors, ils persévéraient, des gens sauvés. Les quatre caractéristiques, première caractéristique, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'Église primitive était une Église scripturaire ou une Église qui était enseignée. L'apôtre Paul va préconiser tout au long de son ministère un enseignement selon les Écritures. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La santé spirituelle d'une assemblée égale l'enseignement biblique. Pierre a dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pour afin que par lui vous croissiez pour le salut. » L'apôtre Paul a exhorté ses protégés qui étaient Timothée et Tite à enseigner la parole de Dieu. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. » Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On devrait toujours apprendre à chaque jour des Écritures. Ce qui nourrit un croyant, ce n'est pas le temps de louange. Ce qui nourrit un croyant, ce n'est pas la fraternité, la prière. Ce qui nourrit le croyant, c'est la parole de Dieu. Osée a fait un avertissement à Israël, il a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et l'Église moderne aujourd'hui est de moins en moins scripturaire. Pourquoi? Parce que la parole dit que à la fin des temps, les gens vont vouloir entendre des belles choses. Vont vouloir entendre des choses qu'ils veulent bien entendre. Alors la personne qui arrive avec qui est scripturaire, l'enseignant qui arrive avec qui est scripturaire est mal accueilli. De moins en moins, les gens apportent leur Bible à l'Église. De moins en moins, les gens vont lire. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait que présentement, sur le web, les gens ne lisent pas. Les gens lisent maximum une page. Puis tant qu'ils entendent un sermon sur... En audio, ils veulent l'entendre en vidéo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de sermons. Les sermons de plus en plus dans les églises sont en vidéo. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas, les gens écoutent, mais les gens veulent voir. Mais comment voulez-vous être enseigné si l'église, s'il n'y a pas un enseignement? Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il arrive, il y a des hérésies dans les églises, puis ça va nous conduire à la grande église qu'on appelle l'écuménique de la fin des temps. Première chose que Dieu a faite pour Israël à la sortie d'Égypte, première affaire, les 10 commandements. Il faisait 400 ans qu'il était en esclavage. 10 commandements, après ça, quoi? La loi. C'est 313 ordonnances. On doit apprendre pour fonctionner dans la vie. Si on n'apprend pas, on ne peut pas fonctionner. Puis la plus belle chose, c'est au Québec, on a un code de loi, on a le code civil, et c'est des lois. On ne peut pas aller contre ça. Il faut être enseigné. Si on brise une loi, on fait quelque chose qui n'est pas correct, on va se faire reprendre par le juge. Puis il va avoir une pénalité, il va avoir quelque chose, on va aller en prison. C'est la même affaire au point de vue des choses spirituelles. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. Le Seigneur l'avait prévu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir la Bible audio sur le web. Mais encore là, les gens, tu peux avoir la Bible vidéo, tu peux l'avoir en vidéo. Tu peux avoir la Bible chantée. Non, c'est une farce. Mais il y a certains livres de la Bible qui sont chantés sur le web, comme les psaumes. Vous pouvez écouter les psaumes, ce sont des chants. Alors, c'est ça, pour dire que l'enseignement, première chose, l'Église, la première Église est une Église scripturaire ou enseignée. Deuxième point, l'Église primitive a eu une communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dans le Nouveau Testament, on voit souvent les uns et les autres. Tout le temps, les uns et les autres. Les gens sont ensemble. Ça vient du grec partenariat ou partage. Un chrétien doit participer à la vie de l'Église. Sinon, c'est une désobéissance aux Écritures. Beaucoup de chrétiens, présentement, ne vont plus à l'Église. ils n'ont plus cette fraternité chrétienne. La Bible nous dit « Veillons les uns sur les autres ». L'Église primitive avait développé un repas de communion fraternelle. Dans Jude 12, on parle des agapés. Les agapés aujourd'hui qu'on prend dans les églises viennent de Jude 12. Alors, les gens qui sont dans l'Église universelle de Christ, les gens qui sont sauvés dans le monde, devraient aller dans une église locale. On ne peut pas, l'homme ne peut pas fonctionner seul. Il faut fonctionner en société. On ne peut pas s'en aller et dire « je vais être tout seul » puis l'homme, il est seul. Non, ce n'est pas un ours. L'ours est seul, l'homme n'est pas seul. D'abord, l'homme ne peut pas fonctionner. La première chose, il est venu au monde, ça lui a pris sa mère. Alors déjà là, l'homme ne peut pas être seul. Nous vivons dans une société nord-américaine très individualiste, très isolée, malgré l'avancement de la technologie. Présentement, vous avez des églises virtuelles sur le web. Plus que ça, cette semaine, j'ai vu une nouvelle, il y en a peut-être plusieurs, qui s'appelle The Life Church, qui est une église tellement virtuelle que vous allez sur le site, vous regardez le culte est à quelle heure, vous participez au culte, le culte commence, et si vous avez besoin de prière, vous clavardez sur votre clavier avec une personne qui est prête, après le culte, de prier avec vous. Je ne sais pas comment elle fait, clavarder avec quelqu'un sur le clavier. Comme quand vous avez des problèmes vous êtes sur des sites Internet, vous avez des problèmes, puis les gens vont clavarder, puis on se répond, puis... Ça, c'est The Life Church, c'est aujourd'hui en 2014. Ça isole les gens d'église. On est des gens de plus en plus isolés, individualistes, surtout la société nord-américaine. Pourquoi? Personnes âgées, on les place dans des foyers. Ça, c'est notre philosophie. Des mariages reconstitués qui divisent, qui isolent, surtout les enfants. Le matérialisme, les gens qui ont des TV dans leur appart. Tout le monde a plusieurs ont des TV dans leur chambre. Alors, il y a des maisons qui ont 3, 4, 5 TV. Les gens passent des heures devant leur ordi pour diverses raisons, pour des sites pornographiques, pour des jeux en ligne, pour des séries télévisées. Et les gens s'isolent de plus en plus. Les gens prennent souvent même un personnage dans ces séries télévisées-là. Vous avez les téléphones intelligents, les tablettes. On dit que les enfants passent jusqu'à 9 heures par jour devant un écran, que ce soit un téléphone, que ce soit Internet. Les gens sont au resto avec tout le monde à son téléphone. Tout le monde parle à son téléphone. Personne ne se parle entre eux. On s'isole de plus en plus avec Facebook. On dit que c'est des amis, mais c'est des faux amis, c'est pas des vrais amis. Alors, c'est ça aujourd'hui, c'est la même chose pour l'Église. La technologie a remplacé le social qu'il y avait dans la première Église. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, ça peut être des cellules de maison bien organisées. J'osais avec un pasteur il y a quelques années en Floride que l'Église, à chaque mercredi soir, faisait un repas pour toute la communauté, puis les gens en dehors de l'Assemblée aussi, qui faisait un buffet pour tout le monde. C'est une église qui avait des sous, il faisait un buffet, il faisait des choses pour les enfants, du chocolat, des chips. La seule chose qu'il fallait faire, c'est d'être avec quelqu'un de différent chaque semaine. C'est eux autres qui plaçaient. Mais les gens allaient pour fraterniser avec un repas. Il y a des églises qui ont des clubs de billard, des clubs de quilles pour fraterniser. Il y a des églises qui organisent des voyages chrétiens aux États-Unis, des croisières comme exemple, des croisières chrétiennes pour 12 à 1500 personnes. Puis on analyse un bateau, il y a 12 à 1500 chrétiens, puis il y a une fraternité on voit ça souvent aux États-Unis. C'est quelque chose que j'avais vu. Croisière chrétienne. La compagnie ne doit pas faire d'argent pour le bar, mais amen, elle est bénie. Une chose est certaine, je ne pense pas que le bateau va couler. Alors, aux États-Unis, il y a des équipes de, puis Canada anglais aussi, il y a des équipes de basketball, il y a des gymnases, il y a des librairies dans les églises. Il y a de la fraternité dans toutes ses formes. Ça, c'est la fraternité dans une église. Alors, il faut rechercher ça, frères et sœurs. Deuxième point de cette église-là, la fraternité. Troisième point de l'église, il persévérait dans la fraction du pain. Qu'est-ce que la fraction du pain veut dire? C'est une église qui est centrée sur Christ. Ça veut dire la célébration du repas du Seigneur. La sainte sainte, frères et sœurs, n'est pas une activité qui est optionnelle. Ce n'est pas une option dans une église, c'est une obligation. Lors du repas du Seigneur, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Paul écrit aux Corinthiens, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. » Je sais, c'est très profond, mais je vais vous donner seulement le verset là. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17. « La Sainte Cène exige qu'on s'examine soi-même, qu'on confesse nos péchés pour que l'Église soit purifiée. C'est un principe de purification essentiel à la vie du croyant. Oui à l'enseignement, oui à la prière, mais c'est un processus de confession des péchés qu'on fait sur une base régulière afin qu'on puisse s'examiner soi-même. Ce qu'on ne ferait peut-être pas à la maison. La Sainte Cène nous ramène à la croix de Golgotha. Ce n'est pas par hasard que Christ a fait cela. Puis là, je vais vous amener, on va faire un petit peu d'histoire, mais très, très vite. Très, très vite. Dieu a instauré la Pâque. L'Ancien Testament, Dieu a instauré la Pâque lorsqu'il a délivré son peuple de 400 ans d'esclavage en Égypte. Vous savez, le passage de l'ange de la mort par-dessus les maisons, vous savez, le linteau de porte, puis on avait badigeonné le linteau de porte de sang. Tout le monde, vous connaissez l'histoire. Puis après ça, les gens, ils avaient pris un agneau. Chaque famille prenait un agneau. Ils faisaient rôtir, ils l'ont mangé avec du pain sans levain, des herbes amères. Et il y avait un principe que Dieu a instauré. Quand il a fait sortir son peuple, puis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans Exode chapitre 12, verset 1. Tout au long de son histoire, Israël a célébré ce repas en souvenir de sa délivrance que Dieu lui a accordée. On dit que c'est encore le plus saint des jours fériés juifs. Cette fête de Pâques, qu'on va parler plus tard dans les prochains mois, n'était que l'ombre des choses à venir. Jésus a fait de ce repas la célébration d'une délivrance encore bien plus grande. Quand nous mangeons son corps, buvons son sang, nous nous rappelons la rédemption spirituelle et éternelle qu'il a obtenue par le sacrifice de ce corps et l'offrande de son sang. La Pâque, dans ce temps-là, ce que Dieu a instauré, la fête de la Pâque célébrait la délivrance physique temporaire de l'ancienne alliance. Puis le repas du Seigneur célèbre la délivrance spirituelle permanente de la nouvelle alliance. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait dans le livre des Actes? Habituellement, il y avait tout le temps un temps fraternel avec un repas. Et à la fin, on faisait le repas du Seigneur. C'était pas comme dans nos églises. On faisait le repas du Seigneur. Alors, l'Église, troisième point, est centrée sur Christ, seulement Christ. Quatrième point, il persévérait dans les prières. L'Église primitive priait. Quand Jésus-Christ est parti, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont prié dans la chambre haute. Jésus avait dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans Jean chapitre 14, verset 13. l'importance de la prière dans l'assemblée. Matthieu 21, chapitre 13, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » On va retourner dans l'Ancien Testament. Dans le tabernacle, le lieu saint, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait brûler de l'encens sur l'autel d'or continuellement. Cela représentait les prières du peuple de Dieu. Psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant toi, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. » Puis dans le livre aux Hébreux, c'est écrit que nous pouvons nous présenter devant Dieu en tout temps. Dans le livre de Cindy Jacobs, Bulwell White a dit « La loi de la prière est la loi la plus élevée de l'univers et surpasse toutes les autres lois, car elle permet l'intervention de Dieu. » C'est bon, ça c'est bon. De nos jours, les églises ne prient pas tant que ça. Il y a beaucoup de, je parlais de la fraternité, mais il y a des églises qui sont beaucoup impliquées dans du communautaire, dans des programmes, dans des concerts, dans des divertissements. Et on ne se le cachera pas, la prière n'attire pas tant de personnes que ça, peut-être 10% d'églises. Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas prier une heure avec moi. Vous ne pouvez même pas prier une heure avec moi. Je dirais que cela coûte quelque chose de prier, mais ne pas prier nous coûte encore plus cher. Et je crois que c'est la grande raison, c'est la raison principale de la grande faiblesse de l'Église, le manque de prière. La Bible nous ordonne de prier en tout temps. Et c'est une arme pour le chrétien, la chrétienne, qui c'est une arme spirituelle. Alors, les quatre points, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est les œuvres spirituelles. Ça, c'est ce que la vie, ce qu'il y avait dans l'Église. C'est la vie de l'Église à l'époque. Ça l'a amené à développer un caractère spirituel aux gens dans l'Église. Avec 2 chapitre 43, verset 43, « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Ça a amené un caractère spirituel. Quoi? La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il y a une puissance, il y a quelque chose de spirituel, il y a des prodiges et des miracles, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Dieu est là et là, ça inspire la crainte. Dieu inspire la crainte. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La vie des chrétiens de la première assemblée, la purification de l'assemblée, c'était tellement authentique. C'était tellement puissant spirituellement que ça l'amenait à une crainte des croyants. Quand il y a une crainte, il y a une obéissance. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu ce matin? Le caractère spirituel s'inspirait la crainte. Un autre caractère, l'Église primitive accomplit des miracles. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Moi, je ne crois pas aux miracles. Il y a des gens qui ne croient pas aux miracles. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Transformation de pécheur, de rebelle en enfant de Dieu, c'est un miracle. Si vous ne croyez pas au miracle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Hébreux, chapitre 2, verset 3. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit. » Les prodiges, les guérisons, les miracles ont amené les gens au salut. Et je crois sincèrement aujourd'hui que l'Église primitive, je crois que Dieu reste semblable, Dieu est pareil, on peut avoir des prodiges et des miracles dans l'Assemblée, on peut avoir des guérisons. Pas un cirque, pas quelqu'un qui s'en va en avant, puis qui, comme on voit souvent, puis que là, après ça, c'est des miracles sur commande. Là. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand la parole de Dieu est prêchée, quand il y a un temps de louange, on est dans la présence du Saint-Esprit, il y a une effusion du Saint-Esprit, puis tu prêches la parole de Dieu, et les gens sont, c'est vraiment, il y a une purification, et Dieu accomplit, Dieu fait des choses, et Dieu peut guérir, Dieu peut faire des miracles. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Troisième point, l'Église primitive partage. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Une unité spirituelle, mais une unité pratique. Pas une communauté, pas une secte. Il y avait une tradition en Israël dans ce temps-là, c'est que pendant les grandes fêtes, il y avait des gens, on s'accommodait ensemble. Parce qu'il y a des gens qui venaient de l'extérieur et on s'accommodait parce qu'on logeait des gens. On partageait certaines ressources ensemble pour qu'il n'y ait pas de pauvreté. Pour que les gens puissent participer aux fêtes qui duraient plusieurs jours. Ça, c'était une tradition en Israël. Et c'est une question d'amour. C'est afin que l'Église n'ait pas de pauvres. C'est qu'afin que les gens soient sur le même pied d'égalité, c'est ce qu'ils faisaient. C'était une générosité. C'était peut-être de l'argent, c'était peut-être des biens spirituels, mais l'Église était généreuse. L'Église n'était pas gratuite. Parce qu'il dit dans la parole de Dieu, ils étaient au temple à chaque jour. Chaque jour, ils étaient à l'Église. Alors, il y avait des gens qui étaient probablement partis de très loin, puis quand ils sont devenus chrétiens, bien, puis ils ont resté au temple, puis ils ont resté longtemps. Alors, ça prenait toute une organisation. N'oubliez pas qu'il y avait 3000 personnes. Ça prenait toute une organisation pour que ces gens-là puissent être ensemble. Puis quand on a vu les prodiges et les miracles, pensez-vous qu'ils ont dit, « Ah, c'est bon ça, on voit ça. Bon, mais là, on s'en va chez nous, là, on a vu ça, c'est correct. » Mais ils ont été tellement surpris que ces gens-là ont collé. Ils ont collé à Jérusalem. Et l'Église, quand elle a vu ça, elle a dit un instant, là, pour qu'il manque de rien, là. Puis les gens étaient généreux. Pourquoi ils étaient généreux? L'amour de Christ en eux. Pas une communauté, puis une secte, puis c'est pas ça, c'est de l'amour. C'est de pourvoir aux gens qui sont dans le besoin. Comme une Église devrait pourvoir dans une Église à la veuve, pourvoir à la personne qui est dans le besoin pour un certain temps, l'Église doit pourvoir pour ça. Ou des gens qui s'en vont en mission, ces choses-là. Ça, c'est le but de l'Église. L'Église primitive partage. Un autre point, avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Il y a quelqu'un qui disait qu'à un moment donné, c'est un prédicateur qui est allé voir une infirmière qu'il connaissait dans un hôpital. Puis ça faisait longtemps qu'elle travaillait dans l'hôpital, l'infirmière était chrétienne. Il dit, j'ai quelque chose à te demander. Tu vois beaucoup de monde. Elle dit, oui, j'en ai vu beaucoup. Elle dit, tu as vu des gens malheureusement mourir, des gens qui sont chrétiens, puis des gens qui sont pas chrétiens. Elle dit, oui. Elle dit, c'est quoi la différence quand ils meurent? C'est quoi l'instant d'avant? Elle dit, c'est pareil. Elle dit, voyons, il y a une espérance, ils vont mourir, mais tu sais, il y a quand même... Non. Elle dit, j'ai pas vu de différence. Souvent, on regarde les gens qui vont dans les églises. Souvent, les gens ont des faces de plâtre. C'est comme si... Pas facile, la vie chrétienne. On t'offre. Et... avec joie et simplicité, cœur louant Dieu. Mais ça, on a tellement une espérance. Les choses d'ici sont tellement rien comparées à les choses à venir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et souvent, on s'en va à l'église et souvent, ça ne nous tente pas. Puis là, je regarde ça, je dis avec joie et simplicité de cœur. Tu peux-tu me passer de l'argent? Non, j'en ai pas. Moi, j'ai pas d'argent. J'aime Jésus. Puis, va voir la personne en charge d'église, puis elle va te passer ce que tu veux. Mais moi, ce que j'ai besoin, je l'ai. Je veux pas avoir d'autre chose. On est loin de ça. Avec joie et simplicité. Les choses simples de la vie. Ça, c'était l'église. Personne de jaloux. Personne d'égoïste. Vous savez, un environnement qui est bien, là, qui est sain. Là. Alors, l'Église primitive était joyeuse. C'est des points dans l'Acte des apôtres pour nous amener à quoi? Pour nous amener à... Ces gens-là ont fait des œuvres spirituelles dans l'Église. Ça les a amenés à avoir un caractère spirituel. Et ils ont eu une influence spirituelle. C'est quoi l'influence spirituelle? Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, si on continue le chapitre 2, on s'en va au verset 47. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La vie de l'Église dynamique, le caractère spirituel, une grande influence sur la communauté. Pas besoin d'argent, pas besoin d'écran géant comme nos églises aujourd'hui, d'équipe de pasteurs, le docteur, ça prend un enseignant, ça prend des pasteurs de jeunesse. Ça prend une stratégie marketing dans les églises. Non, les gens ont vu une vie transformée. Hier, j'étais à une conférence d'hommes et il y avait quelqu'un qui donnait son témoignage, un ancien gars de gang de rue, à Montréal, un dur de dur. Puis à un moment donné, il rencontre une fille qui est chrétienne. Lui, il avait été quelqu'un qui vient d'Haïti. Lui a été élevé dans une famille chrétienne, mais il a quitté l'Église en bas âge. Il est devenu un délinquant. Et à un moment donné, il s'en va à Longueuil. Il traverse, il était à Montréal, mais là, sa gang de rue était plus à Longueuil. Il rencontre une fille qui avait commencé à aller à l'église, à retourner à l'église. Ses parents avaient commencé à retourner à l'église. Et lui, il rencontre la fille, il rencontre ses parents, aujourd'hui, qui sont son beau-père, sa belle-mère. Puis, on dit, tu vas aller à l'église? C'est comment à l'église? Puis lui, il avait un chien pitbull. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas des caniches. Ils ont des gens comme eux autres. Ils ont des gens, j'avais un pitbull. Et le père à ma blonde, il dit, moi, je suis un tough, là. Le père à ma blonde, il dit, je vais garder ton chien. Il dit, savez-vous ce qu'il faisait? Il prenait mon pitbull, il le mettait sur lui, puis il le berçait, puis il priait pour moi. Là, je dis, voyons, mon pitbull, c'est un chien, je l'ai dressé pour attaquer. Puis vous, vous le prenez, vous le bercez comme un bébé, puis vous priez pour moi. Quelqu'un qui est, j'avais jamais vu ça. Des gens transformés. Et quand j'ai vu ces gens-là transformés, j'ai vu que c'est des choses que j'avais pas. Vous comprenez? Ils trouvent en grâce auprès de tout le peuple. Alors, c'est des gens, à un moment donné, qui étaient transformés et que veut pas le peuple regardait, il y avait une influence. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En conclusion, quatre points très caractéristiques de l'Église primitive. L'enseignement, la fraternité, la fraction du pain, la prière. J'ai rien contre tous les écrans HD. De deux étages de haut, comme j'ai vu quand j'étais allé en Orlando cette année en Floride, j'ai vu une église, ça n'avait aucun sens. Tout ce qu'il pouvait avoir là, j'aurais resté là une semaine. S'il y avait des chambres, j'aurais resté là une semaine. J'ai rien contre ça. Et je crois que ça peut faire partie. Mais l'église, la vie de l'église, c'est de l'enseignement, c'est de la fraternité, c'est la fraction du pain et c'est la prière. Pourquoi? Parce que l'Église primitive, c'est ça qu'ils ont, ils ont commencé avec ça, avec l'enseignement des apôtres. Les apôtres, ils avaient passé du temps avec Jésus. Alors, je crois que c'est la bonne méthode et c'est, ce qu'on, c'est une formule qu'on doit appliquer à une Église comme nous autres qui commençons. Des gens sauvés qui connaissent le seul vrai Dieu, imbibé du Saint-Esprit, équipé de dons spirituels, puis des gens qui prient. Ça, ça a un impact. Spirituellement, ça a un impact. Des gens de l'Église, loin de l'adultère, de la fornication, des faux témoignages, des mensonges, convoitises, le vol, des gens qui aiment leur prochain, qui se tiennent assez loin de l'impureté. Et ça, c'est la marque de la première Église, c'est la marque, c'est quatre points, c'est les caractéristiques de la vie de l'Église à l'époque, et on doit se fier à ces caractéristiques-là qui ont fait que l'Église a transformé la communauté et l'Évangile s'est étendu à toutes les îles mineures à l'époque. Et le résultat de ça, c'est quoi? Et le Seigneur ajoutait à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Pas de programme d'essayer de stratégie pour aller chercher des gens, puis les amener dans l'Église, puis essayer d'aller chercher des gens ailleurs, dans d'autres églises, puis commencer à faire de la fausse évangélisation pour amener dans l'Église. Ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est les quatre caractéristiques de l'Église qui ont un impact sur la communauté. Et après ça, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute des gens dans l'Église. On n'a pas besoin de stratégie marketing et spirituelle pour amener des gens dans une assemblée. C'est Dieu qui bâtit son Église, c'est Dieu qui ajoute des gens dans l'assemblée. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises avec beaucoup de monde. Il faut faire attention, frères et sœurs, avec le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans une église. Ça ne représente pas, je le dis, je le redis, je vais le redire parce que les gens ne comprennent pas, la qualité d'une assemblée, le fait qu'une assemblée, c'est vraiment, va trouver grâce pour le Seigneur qui est en bonne santé spirituelle. C'est une assemblée qui amène ces gens, le pasteur qui amène ces gens dans la pensée de Christ, dans la vie de Christ, qui amène ces gens dans la terre promise, dans le pays de Canaan, qui amène ces gens à l'image de Christ. Ce n'est pas une question d'avoir 30 personnes, d'avoir 2000 personnes. Ça n'a rien à voir parce que c'est Dieu qui ajoute dans l'Église des gens qui étaient sauvés. Il y a des églises de 30 personnes, il y a des églises de 2000 personnes, comme il y a des maisons à 50 000 puis il y a des maisons à 3 millions. C'est la même chose. Ça, c'est le résultat. Et moi, je veux m'en tenir au résultat. Alors, pour arriver à ce résultat-là, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, les quatre points que nous avons parlé ce matin, et c'est les quatre points qu'on va essayer d'appliquer dans notre Église. On va essayer, on va se fier là-dessus, on va faire de l'enseignement comme j'ai fait ce matin. Je sais que j'arrive beaucoup avec des versets et j'arrive beaucoup avec des... Mais vous êtes mieux de vous habituer parce que moi, c'est comme ça. J'arrive avec des versets, j'arrive avec des faits, j'arrive avec pas du à peu près, puis une onction du Saint-Esprit qui n'est pas là, puis on dit « Ah, la présence de Dieu, la présence de Dieu ». Il y a un instant, là. Ces quatre points-là, c'est biblique. Il faut retourner aux sources, il faut retourner dans l'Acte des Apôtres. Alors, l'enseignement des apôtres, la communauté fraternelle autant que possible, la fraction du pain qu'on va faire dans les prochaines semaines, et naturellement que dans les prières, et on essaye de prier de plus en plus, et on exhorte les gens à prier. Alors, ça, c'est la vie d'Église. C'est grosso modo la vie d'Église.